Stendhal. Le rouge et le noir. Chronique de 1830. Chapitre 1. Une petite ville. Put thousands together less bad, but the cage less gay. Hobbes. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ses maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline, dont les touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ses fortifications, bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne. C'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers mois d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes, dites de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé, sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles, fraîches et jolies, qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Elle est à monsieur le maire ». Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a 100 à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres. Il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit, et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, monsieur de Rênal. Après avoir traversé la rue d'un pas grave, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. Mais, 100 pas plus haut, si celui-ci continue sa promenade, il aperçoit une maison d'assez belle apparence et à travers une grille de fer attenante à la maison, des jardins magnifiques. Au-delà, c'est une ligne d'horizon formée par les collines de la Bourgogne et qui semble faite à souhait pour le plaisir des yeux. Cette vue fait oublier aux voyageurs l'atmosphère empestée des petits intérêts d'argent dont il commence à être asphyxié. On lui apprend que cette maison appartient à M. de Rênal. c'est au bénéfice qu'il a fait sur sa grande fabrique de clous que le maire de Verrières doit cette belle habitation en pierre de taille qu'il achève en ce moment. Sa famille, dit-on, est espagnole, antique, et, à ce qu'on prétend, établie dans le pays bien avant la conquête de Louis XIV. Depuis 1815, il rougit d'être industriel. 1815 l'a fait maire de Verrières. Les murs en terrasse qui soutiennent les diverses parties de ce magnifique jardin, qui d'étage en étage descend jusqu'au Doubs, sont aussi la récompense de la science de M. de Rênal dans le commerce du fer. Ne vous attendez point à trouver en France ces jardins pittoresques qui entourent les villes manufacturières de l'Allemagne, Leipzig, Francfort, Nuremberg, etc. En Franche-Comté, plus on bâtit de murs, plus on hérisse sa propriété de pierres rangées les unes au-dessus des autres, plus on acquiert de droits au respect de ses voisins. Les jardins de M. de Rênal, remplis de murs, sont encore admirés parce qu'il a acheté, au poids de l'or, certains petits morceaux du terrain qu'ils occupent. Par exemple, cette scie à bois, dont la position singulière sur la rive du Doubs vous a frappé en entrant à Verrières, et où vous avez remarqué le nom de Sorel, écrit en caractères gigantesques sur une planche qui domine le toit. Elle occupait, il y a 6 ans, l'espace sur lequel on élève en ce moment le mur de la 4e terrasse des jardins de M. de Rênal. Malgré sa fierté, M. le maire a dû faire bien des démarches auprès du vieux Sorel, paysan dur et entêté. Il a dû lui compter de beaux louis d'or pour obtenir qu'il transportât son usine ailleurs. Quant au ruisseau public qui faisait aller la scie, M. de Rênal, au moyen du crédit dont il jouit à Paris, a obtenu qu'il fût détourné. Cette grâce lui vint après les élections de 1820. Il a donné à Sorel 4 arpents pour un, à 500 pas plus bas sur les bords du Doubs. Et quoique cette position fût beaucoup plus avantageuse pour son commerce de planches de sapin, le père Sorel, comme on l'appelle depuis qu'il est riche, a eu le secret d'obtenir de l'impatience et de la manie de propriétaire qui animait son voisin une somme de 6 000 francs. Il est vrai que cet arrangement a été critiqué par les bonnes têtes de l'endroit. Une fois, c'était un jour de dimanche, il y a 4 ans de cela, M. de Rênal, revenant de l'église en costume de maire, vit de loin le vieux Sorel, entouré de ses 3 fils, sourire en le regardant. Ce sourire a porté un coup fatal dans l'âme de M. le maire. Il pense depuis lors qu'il eût pu obtenir l'échange à meilleur marché. Pour arriver à la considération publique à Verrières, l'essentiel est de ne pas adopter, tout en bâtissant beaucoup de murs, quelques plans apportés d'Italie par ces maçons, qui au printemps traversent les gorges du Jura pour gagner Paris. Une telle innovation vaudrait à l'imprudent bâtisseur une éternelle réputation de « mauvaise tête ». Et il serait à jamais perdu auprès des gens sages et modérés qui distribuent la considération en Franche-Comté. Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux despotisme. C'est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu'on appelle Paris. La tyrannie de l'opinion. Et quelle opinion ! Est aussi bête dans les petites villes de France qu'aux États-Unis d'Amérique. Chapitre 2. Un maire. L'importance. Monsieur, n'est-ce rien ? Le respect des sots, l'ébahissement des enfants, l'envie des riches, le mépris du sage. Barnave. Heureusement pour la réputation de M. de Rênal comme administrateur, un immense mur de soutènement était nécessaire à la promenade publique qui longe la colline à 100 pieds au-dessus du cours du Doubs. elle doit à cette admirable position une des vues les plus pittoresques de France. Mais, à chaque printemps, les eaux de pluie sillonnaient la promenade, y creusaient des ravins et la rendaient impraticable. Cet inconvénient, senti par tous, mit M. de Rênal dans l'heureuse nécessité d'immortaliser son administration par un mur de 20 pieds de hauteur et de 30 ou 40 toises de long. Le parapet de ce mur, pour lequel M. de Rênal a dû faire 3 voyages à Paris, car l'avant-dernier ministre de l'Intérieur s'était déclaré l'ennemi mortel de la promenade de Verrières, le parapet de ce mur s'élève maintenant de 4 pieds au-dessus du sol. Et, comme pour braver tous les ministres présents et passés, on le garnit en ce moment avec des dalles de pierre de taille. Combien de fois, songeant au bal de Paris abandonné la veille, et la poitrine appuyée contre ces grands blocs de pierre d'un beau gris tirant sur le bleu, mes regards ont plongé dans la vallée du Doubs. Au-delà, sur la rive gauche, serpentent 5 ou 6 vallées au fond desquelles l'œil distingue fort bien de petits ruisseaux. Après avoir couru de cascade en cascade, on les voit tomber dans le Doubs. Le soleil est fort chaud dans ces montagnes. Lorsqu'il brille d'aplomb, la rêverie du voyageur est abritée sur cette terrasse par de magnifiques platanes. Leur croissance rapide et leur belle verdure tirant sur le bleu, ils la doivent à la terre rapportée que Monsieur le maire a fait placer derrière son immense mur de soutènement. Car, malgré l'opposition du conseil municipal, il a élargi la promenade de plus de 6 pieds. Quoiqu'il soit ultra et moi libéral, je l'en loue. C'est pourquoi, dans son opinion et dans celle de M. Valenod, l'heureux directeur du dépôt de mendicité de Verrières, cette terrasse peut soutenir la comparaison avec celle de Saint-Germain-en-Laye. Je ne trouve, quant à moi, qu'une chose à reprendre au cours de la fidélité. On lit ce nom officiel en 15 ou 20 endroits sur des plaques de marbre qui ont valu une croix de plus à M. de Rênal. Ce que je reprocherais au cours de la fidélité, c'est la manière barbare dont l'autorité fait tailler et tondre jusqu'au vif ces vigoureux platanes. Au lieu de ressembler par leurs têtes basses, rondes et aplaties à la plus vulgaire des plantes potagères, ils ne demanderaient pas mieux que d'avoir ces formes magnifiques qu'on leur voit en Angleterre. Mais la volonté de Monsieur le maire est despotique, et 2 fois par an, tous les arbres appartenant à la commune sont impitoyablement amputés. Les libéraux de l'endroit prétendent, mais ils exagèrent, que la main du jardinier officiel est devenue bien plus sévère depuis que Monsieur le vicaire Mazion a pris l'habitude de s'emparer des produits de la tonte. Ce jeune ecclésiastique fut envoyé de Besançon il y a quelques années pour surveiller l'abbé Chélan et quelques curés des environs. Un vieux chirurgien-major de l'armée d'Italie, retiré à Verrières et qui de son vivant était à la fois, suivant Monsieur le maire, jacobin et bonapartiste, osa bien un jour se plaindre à lui de la mutilation périodique de ces beaux arbres. « J'aime l'ombre, » répondit Monsieur de Rênal avec la nuance de hauteur convenable quand on parle à un chirurgien, membre de la Légion d'honneur. « J'aime l'ombre. Je fais tailler mes arbres pour donner de l'ombre. » Et je ne conçois pas qu'un arbre soit fait pour autre chose. Quand, toutefois, comme l'utile noyé, il ne rapporte pas de revenus. Voilà le grand mot qui décide de tout à Verrières. Rapporter un revenu. À lui seul, il représente la pensée habituelle de plus des 3/4 des habitants. Rapporter du revenu est la raison qui décide de tout dans cette petite ville qui vous semblait si jolie. L'étranger qui arrive, séduit par la beauté des fraîches et profondes vallées qui l'entourent, s'imagine d'abord que ses habitants sont sensibles au beau. Ils ne parlent que trop souvent de la beauté de leur pays. On ne peut pas nier qu'ils n'en fassent grand cas. Mais c'est parce qu'elle attire quelques étrangers dont l'argent enrichit les aubergistes, ce qui, par le mécanisme de l'octroi, rapporte du revenu à la ville. C'était par un beau jour d'automne que M. de Rênal se promenait sur le cours de la Fidélité, donnant le bras à sa femme. Tout en écoutant son mari, qui parlait d'un air grave, l'œil de Mme de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons. L'aîné, qui pouvait avoir 11 ans, s'approchait trop souvent du parapet et faisait mine d'y monter. Une voix douce prononçait alors le nom d'Adolphe, et l'enfant renonçait à son projet ambitieux. Madame de Rênal paraissait une femme de 30 ans, mais encore assez jolie. Il pourrait bien s'en repentir, ce beau monsieur de Paris, disait monsieur de Rênal d'un air offensé, et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. Je ne suis pas sans avoir quelques amis au château. Mais, quoique je veuille vous parler de la province pendant 200 pages, je n'aurai pas la barbarie de vous faire subir la longueur et les ménagements savants d'un dialogue de province. Ce beau monsieur de Paris, si odieux au maire de Verrières, n'était autre que monsieur Appert, qui, 2 jours auparavant, avait trouvé le moyen de s'introduire non seulement dans la prison et le dépôt de mendicité de Verrières, mais aussi dans l'hôpital, administré gratuitement par le maire et les principaux propriétaires de l'endroit. « Mais, disait timidement Madame de Rênal, quel tort peut vous faire ce monsieur de Paris, puisque vous administrez le bien des pauvres avec la plus scrupuleuse probité ?» Il ne vient que pour déverser le blâme, et ensuite il fera insérer des articles dans les journaux du libéralisme. Vous ne les lisez jamais, mon ami. Mais on nous parle de ces articles jacobins. Tout cela nous distrait et nous empêche de faire le bien. Quant à moi, je ne pardonnerai jamais au curé. Chapitre 3. Le bien des pauvres. Un curé vertueux et sans intrigue est une providence pour le village. Fleury. Il faut savoir que le curé de Verrières, vieillard de 80 ans, mais qui devait à l'air vif de ces montagnes une santé et un caractère de fer, avait le droit de visiter à toute heure la prison, l'hôpital et même le dépôt de mendicité. C'était précisément à 6 heures du matin que M. Appert, qui de Paris était recommandé au curé, avait eu la sagesse d'arriver dans une petite ville curieuse. Aussitôt, il était allé au presbytère. En lisant la lettre que lui écrivait M. le marquis de La Mole, pair de France et le plus riche propriétaire de la province, le curé Chélan resta pensif. « Je suis vieux et aimé ici !» se dit-il enfin à mi-voix. « Il n'oserait !» Se tournant tout de suite vers le monsieur de Paris, avec des yeux où, malgré le grand âge, brillait ce feu sacré qui annonce le plaisir de faire une belle action un peu dangereuse. « Venez avec moi, monsieur, et en présence du geôlier et surtout des surveillants du dépôt de mendicité, veuillez n'émettre aucune opinion sur les choses que nous verrons. » Monsieur Appert comprit qu'il avait affaire à un homme de cœur. Il suivit le vénérable curé, visita la prison, l'hospice, le dépôt, fit beaucoup de questions, et malgré d'étranges réponses, ne se permit pas la moindre marque de blâme. Cette visite dura plusieurs heures. Le curé invita à dîner Monsieur Appert, qui prétendit avoir des lettres à écrire. Il ne voulait pas compromettre davantage son généreux compagnon. Vers les 3 heures, ces messieurs allèrent achever l'inspection du dépôt de mendicité et revinrent ensuite à la prison. Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de 6 pieds de haut et à jambes arquées. Sa figure ignoble était devenue hideuse par l'effet de la terreur. « Ah, monsieur !» dit-il au curé dès qu'il l'aperçut. « Ce monsieur que je vois là avec vous, n'est-il pas monsieur Appert ?»«
Mais qu'importe ! » dit le curé.
« C'est que depuis hier j'ai l'ordre le plus précis, et que monsieur le préfet a envoyé par un gendarme qui a dû galoper toute la nuit, de ne pas admettre monsieur Appert dans la prison.
« Je vous déclare, monsieur Noiroux, dit le curé, que ce voyageur qui est avec moi est monsieur Appert. Reconnaissez-vous que j'ai le droit d'entrer dans la prison à toute heure du jour et de la nuit, et en me faisant accompagner par qui je veux ?»«
Oui, monsieur le curé, dit le geôlier à voix basse, et baissant la tête comme un bouledogue, que fait obéir à regret la crainte du bâton. « Seulement, monsieur le curé, j'ai femme et enfant. Si je suis dénoncé, on me destituera. Je n'ai pour vivre que ma place. »
« Je serais aussi bien fâché de perdre la mienne, » reprit le bon curé d'une voix de plus en plus émue.
« Quelle différence !» reprit vivement le geôlier. « Vous, monsieur le curé, on sait que vous avez 800 livres de rente, du bon bien au soleil. »
Tels sont les faits, qui, commentés, exagérés de 20 façons différentes, agitaient depuis 2 jours toutes les passions haineuses de la petite ville de Verrières. Dans ce moment, il servait de texte à la petite discussion que M. de Rênal avait avec sa femme. Le matin, suivi de M. Valenod, directeur du dépôt de mendicité, il était allé chez le curé pour lui témoigner le plus vif mécontentement. M. Chélan n'était protégé par personne. Il sentit toute la portée de leurs paroles.
« Eh bien, messieurs, je serai le 3e curé de 80 ans d'âge que l'on destituera dans ce voisinage. Il y a 56 ans que je suis ici. J'ai baptisé presque tous les habitants de la ville, qui n'étaient qu'un bourg quand j'y arrivais. Je marie tous les jours des jeunes gens, dont jadis j'ai marié les grands-pères. Verrières est ma famille. Mais je me suis dit, en voyant l'étranger, cet homme, venu de Paris, peut-être à la vérité un libéral, il n'y en a que trop. Mais quel mal peut-il faire à nos pauvres et à nos prisonniers ?»
Les reproches de M. de Rênal, et surtout ceux de M. Valenod, le directeur du dépôt de mendicité, devenant de plus en plus vif,
« Eh bien, messieurs, faites-moi destituer !» s'était écrié le vieux curé d'une voix tremblante. « Je n'en habiterai pas moins le pays. On sait qu'il y a 48 ans, j'ai hérité d'un champ qui rapporte 800 livres. Je vivrai avec ce revenu. Je ne fais point d'économie dans ma place, moi, messieurs. Et c'est peut-être pourquoi je ne suis pas si effrayé quand on parle de me la faire perdre. »
Monsieur de Rênal vivait fort bien avec sa femme, mais ne sachant que répondre à cette idée, qu'elle lui répétait timidement,
« Mais quel mal ce monsieur de Paris peut-il faire aux prisonniers ?»
Il était sur le point de se fâcher tout à fait quand elle jeta un cri. Le second de ses fils venait de monter sur le parapet du mur de la terrasse et y courait. Quoique ce mur fût élevé de plus de 20 pieds sur la vigne qui est de l'autre côté. La crainte d'effrayer son fils et de le faire tomber empêchait Madame de Rênal de lui adresser la parole. Enfin, l'enfant, qui riait de sa prouesse, ayant regardé sa mère, vit sa pâleur, sauta sur la promenade et accourut à elle. Il fut bien grondé.
Ce petit événement changea le cours de la conversation. « Je veux absolument prendre chez moi Sorel, le fils du scieur de planches, » dit M. de Rênal. « Il surveillera les enfants, qui commencent à devenir trop diables pour nous. C'est un jeune prêtre, ou autant vaut, bon latiniste et qui fera faire des progrès aux enfants. » « Car il a un caractère ferme, » dit le curé. « Je lui donnerai 300 francs et la nourriture. J'avais quelques doutes sur sa moralité,
car il était le benjamin de ce vieux chirurgien, membre de la Légion d'honneur, qui, sous prétexte qu'il était leur cousin, était venu se mettre en pension chez les Sorel. Cet homme pouvait fort bien être, au fond, qu'un agent secret des libéraux. Il disait que l'air de nos montagnes faisait du bien à son asthme, mais c'est ce qui n'est pas prouvé. Il avait fait toutes les campagnes de Buonaparte en Italie, et même avait, dit-on, signé non pour l'Empire dans le temps. Ce libéral montrait le latin au fils Sorel, et lui a laissé cette quantité de livres qu'il avait apportés avec lui. Aussi n'aurais-je jamais songé à mettre le fils du charpentier auprès de nos enfants. Mais le curé, justement la veille de la scène qui vient de nous brouiller à jamais, m'a dit que ce Sorel étudie la théologie depuis 3 ans, avec le projet d'entrer au séminaire. Il n'est donc pas libéral, et il est latiniste. Cet arrangement convient de plus d'une façon, continua M. de Rênal en regardant sa femme d'un air diplomatique. Le Valenod est tout fier des 2 beaux Normands qu'il vient d'acheter pour sa calèche, mais il n'a pas de précepteur pour ses enfants. Il pourrait bien nous enlever celui-ci. Tu approuves donc mon projet, dit M. de Rênal, remerciant sa femme par un sourire, de l'excellente idée qu'elle venait d'avoir. Allons, voilà qui est décidé. Ah, bon Dieu, mon cher ami, comme tu prends vite un parti. C'est que j'ai du caractère, moi. Et le curé l'a bien vu. Ne dissimulons rien. Nous sommes environnés de libéraux, ici. Tous ces marchands de toile me portent envie, j'en ai la certitude. 2 ou 3 deviennent des Richards. Eh bien, j'aime assez qu'ils voient passer les enfants de M. de Rênal allant à la promenade sous la conduite de leur précepteur. Cela imposera. Mon grand-père nous racontait souvent que dans sa jeunesse, il avait un précepteur. C'est 100 écus qu'il m'en pourra coûter, mais ceci doit être classé comme une dépense nécessaire pour soutenir notre rang. Cette résolution subite laissa Madame de Rênal toute pensive. C'était une femme grande, bien faite, qui avait été la beauté du pays, comme on dit dans ces montagnes. Elle avait un certain air de simplicité et de la jeunesse dans la démarche. Aux yeux d'un Parisien, cette grâce naïve, pleine d'innocence et de vivacité, serait même allée jusqu'à rappeler des idées de douce volupté. Si elle eût appris ce genre de succès, Madame de Rênal en eût été bien honteuse. Ni la coquetterie, ni l'affectation n'avaient jamais approché de ce cœur. Monsieur Valenod, le riche directeur du dépôt, passait pour lui avoir fait la cour, mais sans succès. Ce qui avait jeté un éclat singulier sur sa vertu, car ce monsieur Valenod, grand jeune homme, taillé en force, avec un visage coloré et de gros favoris noirs, était un de ces êtres grossiers, effrontés et bruyants qu'en province on appelle de beaux hommes. Madame de Rênal, fort timide et d'un caractère en apparence fort égal, était surtout choquée du mouvement continuel et des éclats de voix de M. Valenod. L'éloignement qu'elle avait pour ce qu'à Verrières on appelle de la joie lui avait valu la réputation d'être très fière de sa naissance. Elle n'y songeait pas, mais avait été fort contente de voir les habitants de la ville venir moins chez elle. Nous ne dissimulerons pas qu'elle passait pour sotte aux yeux de leur dame, parce que, sans nulle politique à l'égard de son mari, elle laissait échapper les plus belles occasions de se faire acheter de beaux chapeaux de Paris ou de Besançon. Pourvu qu'on la laissât seule errer dans son beau jardin, elle ne se plaignait jamais. C'était une âme naïve qui jamais ne s'était élevée même jusqu'à juger son mari et à s'avouer qu'il l'ennuyait. Elle supposait, sans se le dire, qu'entre mari et femme il n'y avait pas de plus douce relation. Elle aimait surtout M. de Rênal quand il lui parlait de ses projets sur leurs enfants, dont il destinait l'un à l'épée, le second à la magistrature et le troisième à l'église. En somme, elle trouvait M. de Rênal beaucoup moins ennuyeux que tous les hommes de sa connaissance. Ce jugement conjugal était raisonnable. Le maire de Verrières devait une réputation d'esprit et surtout de bon ton à une demi-douzaine de plaisanteries dont il avait hérité d'un oncle. Le vieux capitaine de Rênal servait avant la Révolution dans le régiment d'infanterie de M. le duc d'Orléans, et quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. Il y avait vu Madame de Montesson, la fameuse Madame de Genlis, M. Ducret, l'inventeur du palais royal. Ces personnages ne reparaissaient que trop souvent dans les anecdotes de M. de Rênal. Mais peu à peu, ce souvenir de choses aussi délicates à raconter était devenu un travail pour lui, et depuis quelque temps, il ne répétait que dans les grandes occasions ses anecdotes relatives à la maison d'Orléans. Comme il était d'ailleurs fort poli, excepté lorsqu'on parlait d'argent, il passait avec raison pour le personnage le plus aristocratique de Verrières. Chapitre 4. Un père et un fils. Sarà mia colpa, se così è. Machiavel. Ma femme a réellement beaucoup de tête, disait le lendemain à 6 heures du matin le maire de Verrières en descendant à la scie du père Sorel. Quoique je lui ai dit, pour conserver la supériorité qui m'appartient, je n'avais pas songé que si je ne prends pas ce petit abbé Sorel, qui, dit-on, sait le latin comme un ange, le directeur du dépôt, cette âme sans repos, pourrait bien avoir la même idée que moi et me l'enlever. Avec quel ton de suffisance il parlerait du précepteur de ses enfants. Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane ? Monsieur de Rênal était absorbé dans ce doute lorsqu'il vit de loin un paysan, homme de près de 6 pieds, qui, dès le petit jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du Doubs, sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher monsieur le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que M. de Rênal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins avec cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. Esclaves du temps de la domination espagnole, ils conservent encore ce trait de la physionomie du fellah d'Égypte. La réponse de Sorel ne fut d'abord que la longue récitation de toutes les formules de respect qu'il savait par cœur. Pendant qu'il répétait ses vaines paroles, avec un sourire gauche qui augmentait l'air de fausseté et presque de friponnerie naturelle à sa physionomie, l'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que M. de Rênal lui offrait les gages inespérés de 300 francs par an, avec la nourriture et même l'habillement. Cette dernière prétention, que le père Sorel avait eu le génie de mettre en avant subitement, avait été accordée de même par M. de Rênal. Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n'est pas ravi et comblé de ma proposition, comme naturellement il devrait l'être, il est clair, se dit-il, qu'on lui a fait des offres d'un autre côté. Et de qui peuvent-elles venir, si ce n'est du Valenod ? Ce fut en vain que M. de Rênal pressa Sorel de conclure sur le champ. L'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement. Il voulait, disait-il, consulter son fils. Comme si, en province, un père riche consultait un fils qui n'a rien, autrement que pour la forme. Une CAO se compose d'un hangar au bord d'un ruisseau. Le toit est soutenu par une charpente qui porte sur 4 gros piliers en bois. À 8 ou 10 pieds d'élévation, au milieu du hangar, on voit une scie qui monte et descend, tandis qu'un mécanisme fort simple pousse contre cette scie une pièce de bois. C'est une roue mise en mouvement par le ruisseau qui fait aller ce double mécanisme, celui de la scie qui monte et descend et celui qui pousse doucement la pièce de bois vers la scie qui la débite en planche. En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants, qui, armés de lourdes haches, écarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie. Tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en séparait des copeaux énormes. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l'aperçut, à 5 ou 6 pieds de haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tout le mécanisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés. Mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même. Ce fut en vain qu'il appela Julien 2 ou 3 fois. L'attention que le jeune homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l'empêcha d'entendre la terrible voix de son père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l'arbre soumis à l'action de la scie et de là sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que tenait Julien. Un second coup aussi violent, donné sur la tête en forme de calotte, lui fit perdre l'équilibre. Il allait tomber à 12 ou 15 pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en action, qui l'eussent brisé. Mais son père le retint de la main gauche, comme il tombait. « Eh bien, paresseux, tu liras donc toujours tes maudits livres pendant que tu es de garde à la scie. Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé et à la bonne heure. » Julien, quoique étourdi par la force du coup et tout sanglant, se rapprocha de son poste officiel à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur physique que pour la perte de son livre qu'il adorait. « Descends, animal, que je te parle !» Le bruit de la machine empêcha encore Julien d'entendre cet ordre. Son père, qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre les noix et l'en frappa sur l'épaule. À peine Julien fut-il à terre que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. « Dieu sait ce qu'il va me faire !» se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu. Était animé en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient un petit front, et dans les moments de colère, un air méchant. Parmi les innombrables variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qui se soit distingué par une spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise, annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avait donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Il n'y avait pas un an que sa jolie figure commençait à lui donner quelques voix amies parmi les jeunes filles. Méprisé de tout le monde, comme un être faible, Julien avait adoré ce vieux chirurgien-major qui un jour osa parler au maire au sujet des platanes. Ce chirurgien payait quelquefois au père Sorel la journée de son fils et lui enseignait le latin et l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il savait d'histoire, la campagne de 1796 en Italie. En mourant, il lui avait légué sa croix de la Légion d'honneur, les arriérages de sa demi-solde et 30 ou 40 volumes, dont le plus précieux venait de faire le saut dans le ruisseau public, détourné par le crédit de monsieur le maire. À peine entré dans la maison, Julien se sentit l'épaule arrêtée par la puissante main de son père. Il tremblait, s'attendant à quelque coup. « Réponds-moi sans mentir !» lui cria aux oreilles la voix dure du vieux paysan, tandis que sa main le retournait comme la main d'un enfant retourne un soldat de plomb. Les grands yeux noirs et remplis de larmes de Julien se trouvèrent en face des petits yeux gris et méchants du vieux charpentier, qui avait l'air de vouloir lire jusqu'au fond de son âme. Chapitre 5. Une négociation. Cuctando restituit rem. Ennius.
Réponds-moi sans mentir, si tu le peux, chien de lisard. D'où connais-tu madame de Rênal? Quand lui as-tu parlé?
Je ne lui ai jamais parlé, répondit Julien. Je n'ai jamais vu cette dame qu'à l'église.
Mais tu l'auras regardé, vilain effronté.
Jamais. Vous savez qu'à l'église je ne vois que Dieu, ajouta Julien avec un petit air hypocrite, tout propre, selon lui, à éloigner le retour des taloches.
« Il y a pourtant quelque chose là-dessous, » répliqua le paysan malin, et il se tut un instant. « Mais je ne saurai rien de toi, maudit hypocrite. Au fait, je vais être délivré de toi, et Massy n'en ira que mieux. Tu as gagné, monsieur le curé ou tout autre, qui t'a procuré une belle place. Va faire ton paquet, et je te mènerai chez monsieur de Rênal, où tu seras précepteur des enfants. »
« Qu'aurai-je pour cela ?»«
La nourriture, l'habillement et 300 francs de gage. »
« Je ne veux pas être domestique. »
« Animal, qui te parle d'être domestique? Est-ce que je voudrais que mon fils fût domestique ?»«
Mais avec qui mangerai-je ? »
Cette demande déconcerta le vieux Sorel. Il sentit qu'en parlant, il pourrait commettre quelque imprudence. Il s'emporta contre Julien, qu'il accabla d'injures en l'accusant de gourmandise, et le quitta pour aller consulter ses autres fils. Julien les vit bientôt après, chacun appuyé sur sa hache et tenant conseil. Après les avoir longtemps regardés, Julien, voyant qu'il ne pouvait rien deviner, alla se placer de l'autre côté de la scie pour éviter d'être surpris. Il voulait penser à cette annonce imprévue qui changeait son sort, mais il se sentit incapable de prudence. Son imagination était tout entière à se figurer ce qu'il verrait dans la belle maison de monsieur de Rênal.
Il faut renoncer à tout cela, se dit-il, plutôt que de se laisser réduire à manger avec les domestiques. Mon père voudra m'y forcer, plutôt mourir. J'ai 15 francs 8 sous d'économie, je me sauve cette nuit. En 2 jours, par des chemins de traverse, où je ne crains nul gendarme, je suis à Besançon. Là, je m'engage comme soldat, et s'il le faut, je passe en Suisse. Mais alors, plus d'avancement, plus de ce bel état de prêtre qui mène à tout. Cette horreur pour manger avec les domestiques n'était pas naturelle à Julien. Il eût fait pour arriver à la fortune des choses bien autrement pénibles. Il puisait cette répugnance dans les confessions de Rousseau.
C'était le seul livre à l'aide duquel son imagination se figurait le monde. Le recueil des bulletins de la Grande Armée et le mémorial de Sainte-Hélène complétaient son Coran. Il se serait fait tuer pour ces trois ouvrages. Jamais il ne crut en aucun autre. D'après un mot du vieux chirurgien-major, il regardait tous les autres livres du monde comme menteurs et écrits par des fourbes pour avoir de l'avancement. Avec une âme de feu, Julien avait une de ces mémoires étonnantes, si souvent unies à la sottise. Pour gagner le vieux curé Chélan, duquel il voyait bien que dépendait son sort à venir, il avait appris par cœur le Nouveau Testament en latin. Il savait aussi le livre du pape de Monsieur de Maître et croyait à l'un aussi peu qu'à l'autre. Comme par un accord mutuel, Sorel et son fils évitèrent de se parler ce jour-là. Vers le soir, Julien alla prendre sa leçon de théologie chez le curé, mais il ne jugea pas prudent de lui rien dire de l'étrange proposition qu'on avait faite à son père. « Peut-être est-ce un piège, » se disait-il. Il faut faire semblant de l'avoir oublié. Le lendemain de bonne heure, M. de Rênal fit appeler le vieux Sorel, qui, après s'être fait attendre une heure ou deux, finit par arriver, en faisant dès la porte, sans excuse, entremêlée d'autant de révérences. À force de parcourir toutes sortes d'objections, Sorel comprit que son fils mangerait avec le maître et la maîtresse de la maison. Et les jours où il y aurait du monde, seul dans une chambre à part avec les enfants. Toujours plus disposé à incidenter à mesure qu'il distinguait un véritable empressement chez M. le maire, et d'ailleurs rempli de défiance et d'étonnement, Sorel demanda à voir la chambre où coucherait son fils. C'était une grande pièce meublée fort proprement, mais dans laquelle on était déjà occupé à transporter les lits des trois enfants. Cette circonstance fut un trait de lumière pour le vieux paysan. Il demanda aussitôt, avec assurance, à voir l'habit que l'on donnerait à son fils. Monsieur de Rênal ouvrit son bureau et prit 100 francs. « Avec cet argent, votre fils ira chez Monsieur Durand le drapier et lèvera un habit noir complet. » « Et quand même je le retirerai de chez vous, » dit le paysan qui avait tout à coup oublié ses formes révérencieuses. « Cet habit noir lui restera ?»«
Sans doute. »«
Oh bien !» dit Sorel d'un ton de voix traînard. « Il ne reste donc plus qu'à nous mettre d'accord sur une seule chose, l'argent que vous lui donnerez. »«
Comment ? »
s'écria M. de Rênal indigné. « Nous sommes d'accord depuis hier, je donne 300 francs. Je crois que c'est beaucoup et peut-être trop. »«
C'était votre offre, je ne le nie point, » dit le vieux Sorel, parlant encore plus lentement.
Et par un effort de génie qui n'étonnera que ceux qui ne connaissent pas les paysans franc-comtois, il ajouta, en regardant fixement Monsieur de Rênal,
« Nous trouvons mieux ailleurs. »
À ces mots, la figure du maire fut bouleversée. Il revint cependant à lui, et après une conversation savante de 2 grandes heures, où pas un mot ne fut dit au hasard, la finesse du paysan l'emporta sur la finesse de l'homme riche, qui n'en a pas besoin pour vivre. Tous les nombreux articles qui devaient régler la nouvelle existence de Julien se trouvèrent arrêtés. Non seulement ces appointements furent réglés à 400 francs, mais on dut les payer d'avance, le premier de chaque mois.
« Eh bien, je lui remettrai 35 francs, » dit M. de Rênal.
« Pour faire la somme ronde, un homme riche et généreux comme M. notre maire, » dit le paysan d'une voix câline, « ira bien jusqu'à 36 francs.
« Soit, » dit Monsieur de Rênal, « mais finissons-en. »
Pour le coup, la colère lui donnait le ton de fermeté. Le paysan vit qu'il fallait cesser de marcher en avant. Alors, à son tour, Monsieur de Rênal fit des progrès.
jamais il ne voulut remettre le premier mois de 36 francs au vieux Sorel, fort empressé de le recevoir pour son fils. Monsieur de Rênal vint à penser qu'il serait obligé de raconter à sa femme le rôle qu'il avait joué dans toute cette négociation. « Rendez-moi les 100 francs que je vous ai remis, » dit-il avec humeur. « Monsieur Durand me doit quelque chose. J'irai avec votre fils faire la levée du drap noir. » Après cet acte de vigueur, Sorel rentra prudemment dans ses formules respectueuses. Elles prirent un bon quart d'heure. À la fin, voyant qu'il n'y avait décidément plus rien à gagner, il se retira. Sa dernière révérence finit par ces mots « Je vais envoyer mon fils au château. » C'était ainsi que les administrés de Monsieur le maire appelaient sa maison, quand il voulait lui plaire. De retour à son usine, ce fut en vain que Sorel chercha son fils. Se méfiant de ce qui pouvait arriver, Julien était sorti au milieu de la nuit. Il avait voulu mettre en sûreté ses livres et sa croix de la Légion d'honneur. Il avait transporté le tout chez un jeune marchand de bois, son ami, nommé Fouquet, qui habitait dans la haute montagne qui domine Verrières. Quand il reparut, « Dieu sait, maudit paresseux !» lui dit son père. « Si tu auras jamais assez d'honneur pour me payer le prix de ta nourriture que j'avance depuis tant d'années, prends tes guenilles et va-t'en chez monsieur le maire. » Julien, étonné de n'être pas battu, se hâta de partir. Mais à peine hors de la vue de son terrible père, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile à son hypocrisie d'aller faire une station à l'église. Ce mot vous surprend. Avant d'arriver à cet horrible mot, l'âme du jeune paysan avait eu bien du chemin à parcourir. Dès sa première enfance, la vue de certains dragons du sixième, au long manteau blanc et la tête couverte de casques au long crin noir, qui revenaient d'Italie, et que Julien vit attacher leurs chevaux à la fenêtre grillée de la maison de son père, le rendit fou de l'état militaire. Plus tard, il écoutait avec transport les récits des batailles du pont de Lodi, d'Arcole, de Rivoli, que lui faisait le vieux chirurgien-major. Il remarqua les regards enflammés que le vieillard jetait sur sa croix. Mais lorsque Julien avait 14 ans, on commença à bâtir à Verrières une église que l'on peut appeler magnifique pour une aussi petite ville. Il y avait surtout 4 colonnes de marbre dont la vue frappa Julien. Elles devinrent célèbres dans le pays par la haine mortelle qu'elles suscitèrent entre le juge de paix et le jeune vicaire envoyé de Besançon qui passait pour être l'espion de la congrégation. Le juge de paix fut sur le point de perdre sa place, du moins telle était l'opinion commune. N'avait-il pas osé avoir un différend avec un prêtre qui presque tous les 15 jours allait à Besançon, où il voyait, disait-on, monsieur l'évêque? Sur ces entrefaites, le juge de paix, père d'une nombreuse famille, rendit plusieurs sentences qui semblèrent injustes. Toutes furent portées contre ceux des habitants qui lisaient le Constitutionnel. Le bon parti triompha. Il ne s'agissait, il est vrai, que de sommes de 3 ou de 5 francs, mais une de ces petites amendes dut être payée par un cloutier, parrain de Julien. Dans sa colère, cet homme s'écriait « Quel changement !» et dire que depuis plus de 20 ans, le juge de paix passait pour un si honnête homme. Le chirurgien-major, ami de Julien, était mort. Tout à coup, Julien cessa de parler de Napoléon. Il annonça le projet de se faire prêtre. Et on le vit constamment, dans la scie de son père, occupé à apprendre par cœur une Bible latine que le curé lui avait prêtée. Ce bon vieillard, émerveillé de ses progrès, passait des soirées entières à lui enseigner la théologie. Julien ne faisait paraître devant lui que des sentiments pieux. Qui eût pu deviner que cette figure de jeune fille, si pâle et si douce, cachait la résolution inébranlable de s'exposer à 1000 morts plutôt que de ne pas faire fortune. Pour Julien, faire fortune, c'était d'abord sortir de Verrières. Il abhorrait sa patrie. Tout ce qu'il voyait glaçait son imagination. Dès sa première enfance, il avait eu des moments d'exaltation. Alors, il songeait avec délice qu'un jour il serait présenté aux jolies femmes de Paris. Il saurait attirer leur attention par quelque action d'éclat. Pourquoi ne serait-il pas aimé de l'une d'elles, comme Bonaparte, pauvre encore, avait été aimé de la brillante madame de Beauharnais. Depuis bien des années, Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. La construction de l'église et les sentences du juge de paix l'éclairèrent tout à coup. Une idée qui lui vint le rendit comme fou pendant quelques semaines, et enfin s'empara de lui avec la toute-puissance de la première idée qu'une âme passionnée croit avoir inventée. Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d'être envahie. Le mérite militaire était nécessaire et à la mode. Aujourd'hui, on voit des prêtres de 40 ans avoir 100 000 francs d'appointements, c'est-à-dire 3 fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête homme jusqu'ici, si vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de 30 ans. Il faut être prêtre. Une fois, au milieu de sa nouvelle piété, il y avait déjà 2 ans que Julien étudiait la théologie, il fut trahi par une irruption soudaine du feu qui dévorait son âme. Ce fut chez M. Chélan. Un dîner de prêtre, auquel le bon curé l'avait présenté comme une prodige d'instruction, il lui arriva de louer Napoléon avec fureur. Il se lia le bras droit contre la poitrine, prétendit s'être disloqué le bras en remuant un tronc de sapin, et le porta pendant 2 mois dans cette position gênante. Après cette peine afflictive, il se pardonna. Voilà le jeune homme de 19 ans, mais faible en apparence, et à qui l'on en eût tout au plus donné 17, qui, portant un petit paquet sous le bras, entrait dans la magnifique église de Verrières. Il la trouva sombre et solitaire. À l'occasion d'une fête, toutes les croisées de l'édifice avaient été couvertes d'étoffes cramoisies. Il en résultait, aux rayons du soleil, un effet de lumière éblouissant, du caractère le plus imposant et le plus religieux. Julien tressaillit. Seul, dans l'église, il s'établit dans le banc qui avait la plus belle apparence. Il portait les armes de M. de Rênal. Sur le prie-dieu, Julien remarqua un morceau de papier imprimé, étalé là comme pour être lu. Il y porta les yeux et vit « Détail de l'exécution et des derniers moments de Louis Jeanrel, exécuté à Besançon le... » Le papier était déchiré. Au revers, on lisait les 2 premiers mots d'une ligne, c'était « Le premier pas ». « Qui a pu mettre ce papier là ?» dit Julien. « Pauvre malheureux » ajouta-t-il avec un soupir. « Son nom finit comme le mien. » Et il froissa le papier. En sortant, Julien crut voir du sang près du bénitier. C'était de l'eau bénite qu'on avait répandue. Le reflet des rideaux rouges qui couvraient les fenêtres le faisait paraître du sang. Enfin, Julien eut honte de sa terreur secrète. « Serais-je un lâche ? » se dit-il. « Aux armes !» Ce mot, si souvent répété dans les récits de bataille du vieux chirurgien, était héroïque pour Julien. Il se leva et marcha rapidement vers la maison de M. de Rênal. Malgré ses belles résolutions, dès qu'il l'aperçut à 20 pas de lui, il fut saisi d'une invincible timidité. La grille de fer était ouverte, elle lui semblait magnifique. Il fallait entrer là-dedans. Julien n'était pas la seule personne dont le cœur fut troublé par son arrivée dans cette maison. L'extrême timidité de Madame de Rênal était déconcertée par l'idée de cet étranger, qui, d'après ses fonctions, allait se trouver constamment entre elle et ses enfants. Elle était accoutumée à avoir ses fils couchés dans sa chambre. Le matin, bien des larmes avaient coulé quand elle avait vu transporter leur petit lit dans l'appartement destiné au précepteur. Ce fut en vain qu'elle demanda à son mari que le lit de Stanislas Xavier, le plus jeune, fût reporté dans sa chambre. La délicatesse de femme était poussée à un point excessif chez Madame de Rênal. Elle se faisait l'image la plus désagréable d'un être grossier et mal peigné, chargé de gronder ses enfants, uniquement parce qu'il savait le latin, un langage barbare pour lequel on fouetterait ses fils.